Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider?
J'aimerais vendre mes actions.
Même activité fiévreuse à la Bourse de Paris.
La course économique, c'est comme les courses de cyclistes, c'est-à-dire qu'il y a des étapes.
Le Japon n'est officiellement plus en récession.
La production industrielle a progressé.
Premier trimestre est mesuré à 0,6%.
L'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran, c'est 60% des réserves mondiales de pétrole de la planète.
Bonjour et bienvenue à l'antenne de Radio Spoutnik pour une nouvelle édition des Chroniques de Jacques Sapir. Présenté jeudi dernier, en Conseil des ministres, le projet de loi travail de la ministre, Mme Myriam El Khomri, a ranimé dans notre pays une énergie contestataire digne du mouvement contre le contrat première embauche de 2006-2007. 7 syndicats et organisations de jeunes entendent se battre jusqu'au retrait complet du texte dans une mobilisation qui prend de l'ampleur chaque semaine et qui multiplie les moyens de se faire entendre. La première journée de grève nationale, ce jeudi 31 mars, promet de n'être que le début d'un long bras de fer jusqu'en 2017 et jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Le gouvernement, certainement, aurait préféré que le projet reste inconnu du grand public jusqu'à sa première lecture parlementaire. Mais le sort en a décidé autrement. Et le rapport de force est, pour la première fois, depuis une dizaine d'années, plus ou moins favorable au déclenchement d'une grève générale reconductible. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Attention au démarrage de la chronique. Va-t-on vers une grève générale? Il y a encore quelques semaines, une telle question aurait été parfaitement saugrenue. Comment penser que, dans la France, encore traumatisée par les attentats du 13 novembre, on puisse être confronté à un mouvement social de très grande ampleur, pouvant déboucher sur une grève générale reconductible? Et puis, avec cet art consommé qu'a notre gouvernement et notre président à se tirer une balle dans le pied, avec le projet de loi dit « loi El Khomri », ou plus précisément « loi travail », eh bien on a vu apparaître un mouvement de mobilisation extrêmement important qui pose désormais, véritablement, le problème de la grève générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que l'on est en présence d'un mouvement qui réussit à unifier à la fois les syndicats dits « contestataires » à des syndicats qui sont dits « plus réformiste, un mouvement qui s'étend dans toute une série de couches de la population, qui va mobiliser jusqu'à la jeunesse scolarisée, ce qui ne s'était pas vu depuis pratiquement une dizaine d'années et depuis le fameux mouvement contre le CPE, contre le contrat première embauche. Bref, on est en train de revivre un mouvement social, une mobilisation de très grande ampleur. Pourquoi? Alors, évidemment, on peut dire, oui, tout cela, c'est politique, ce sont les frondeurs du Parti Socialiste qui entendent régler leurs comptes avec le gouvernement, avec François Hollande. Non, bien sûr qu'il y a des idées derrière la tête de toute une série de gens. Bien sûr que quand on voit toute une série de députés frondeurs, dont certains ont été ministres, qui aujourd'hui se drapent dans leur dignité et disent « Ah non, 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 jamais cette loi doit être rejetée absolument », il y a beaucoup de postures politiques. Mais il y a aussi un fond politique absolument essentiel. Et il faut comprendre que ce qui est en jeu, c'est bien en réalité le démantèlement assez profond du droit du travail tel qu'il existait jusqu'à présent en France. D'ailleurs, toute une série de personnalités de droite ne s'y sont pas trompées. Et on peut entendre que ce soit M. Alain Juppé ou que ce soit M. Mariton, qui, d'une certaine manière, se disent d'accord, ou totalement, ou en partie, avec ce projet de loi. D'ailleurs, Hervé Mariton a laissé échapper un mot tout à fait significatif. Il est, lui, pour l'abrogation du droit du travail. Alors, on voit bien que les enjeux sont, aujourd'hui, extrêmement importants. Quels sont-ils? Alors, il y a d'abord des enjeux qui vont porter, fondamentalement, sur le droit de licenciement. Il y aura ensuite des enjeux qui vont porter sur la durée du travail. Comment va-t-on, dans les faits, faire sauter la barrière des 35 heures, mais remonter peut-être à 44, 46, 48 heures dans certaines professions? Il y a, d'une certaine manière, le problème des travailleurs pauvres, car on voit bien ce qui se profile avec cette loi. Cette loi ne fait que reprendre des mesures qui ont été appliquées en Allemagne, qui ont été appliquées en Espagne, qui ont été appliquées en Italie. Et ces mesures ont, dans tous ces pays, été accompagnées par une baisse de revenus extrêmement importante de la part des populations salariées. Il y a aussi un autre problème qui se pose. C'est que cette loi, elle est présentée comme une loi franco-française. Et on dit, ah voilà, c'est toujours la difficulté, l'impossibilité de la France de se réformer. Et toute une série d'acteurs politiques et médiatiques qui vont verser des larmes de crocodile sur ce problème-là. Mais en réalité, le fond même de cette loi, il n'a pas été décidé à Paris. Il a été décidé à Bruxelles, au sein de l'Union européenne, au sein de l'Eurogroupe. Car cette loi, elle est non seulement parfaitement compatible, mais elle est en réalité dictée par les autorités européennes qui cherche à la faire endosser par l'élite politique française. Alors, face à la mobilisation qui est en train de monter, on peut se poser la question de la grève générale. Pourquoi ? Parce qu'on comprend bien que compte tenu des enjeux, à la fois des enjeux franco-français, mais aussi des enjeux par rapport à l'Union européenne, par rapport à la zone euro, il est très peu probable que le gouvernement, que M. Manuel Valls, que M. François Hollande, notre président, cède sur le fond sur cette loi. Et donc, nous allons déboucher soit sur une lutte de longue durée, soit sur une lutte paroxystique dont, logiquement, le débouché devrait être la grève générale reconductible. Oui, mais il faut savoir qu'une grève générale ne se décide pas, ne se déclenche pas comme cela. Et de ce point de vue-là, quels que soient les reproches que l'on puisse faire aux différentes centrales syndicales, on peut évidemment leur reprocher leur pusillanimité, on peut leur reprocher leur manque d'enthousiasme pour toute une série de mesures. Il faut quand même savoir qu'une grève générale est un moment de conflit extrêmement important dans le pays et que si elle échoue, les conséquences de cet échec peuvent être très graves. Donc on peut parfaitement comprendre pourquoi toute une série de centrales syndicales, et ceci dit, sans vouloir du tout excuser d'une certaine manière leur timidité sur cette question-là, mais on peut tout à fait comprendre pourquoi toute une série de centrales syndicales sont finalement assez ambiguës par rapport à cette question de la grève générale. Mais en attendant la grève générale, nous avons le temps, chers auditeurs et chères auditrices, de revenir sur le fond du projet de loi travail. Cette loi travail qui a été présentée ce jeudi en Conseil des ministres avec mon invité du jour. David Van der Vlist, vous êtes un avocat en droit du travail et membre du syndicat des avocats de France. Avec vous, je voudrais revenir sur toute une série de points qui ont, d'une certaine manière, qui ont été évoqués dans le cadre de la loi proposée par Mme El Khomri. Et tout d'abord, la primauté des accords d'entreprise en matière de temps du travail, la possibilité de référendum pour outrepasser l'opposition des représentants syndicaux, l'élargissement de la définition du licenciement économique. Il y a aussi la question des indemnités prud'homales qui ont été plafonnées en cas de licenciement abusif, le recours facilité au forfait jour dans les petites entreprises. Bref, que va-t-il rester si cette loi est votée du droit du travail?
C'est la question que tout le monde se pose, parce qu'effectivement, il y a des régressions extrêmement graves, notamment la question du licenciement, qui est vraiment le cœur du droit du travail. Le licenciement, c'est ce qui permet, la protection contre le licenciement, c'est ce qui permet de faire respecter tous les autres droits. C'est-à-dire que si l'employeur sait qu'il ne peut pas licencier n'importe comment, si le salarié sait qu'il est protégé contre le licenciement parce qu'on ne peut pas le licencier n'importe comment, il peut demander, il peut se battre pour faire respecter ses droits.
Donc, si je vous comprends bien, pour vous, c'est vraiment un point absolument crucial. Toucher au droit du licenciement reviendrait à fragiliser la totalité du droit du travail.
Parfaitement. Toucher au droit du licenciement, c'est faire en sorte que l'employeur, actuellement là, le projet prévoit un plafonnement. Enfin, je vais peut-être résumer en quelques mots l'état actuel du droit pour qu'on voit la différence. L'état actuel du droit du licenciement, il date de 1973. C'est une loi de Georges Pompidou. Donc vous voyez, c'est pas une législation dangereuse gauchiste. C'est une loi de Pompidou qui dit que en cas de licenciement, le salarié a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice si le licenciement est injustifié. Et si jamais le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise a plus de 10 salariés, il y a au minimum 6 mois de dommages et intérêts pour le licenciement. Ça, c'est crucial. Le but, c'est de dissuader les employeurs de licencier n'importe comment et de faire en sorte que les salariés soient assurés d'avoir un intérêt à saisir le juge parce que l'enjeu en vaut la chandelle. Si le projet de réforme prévoit de modifier tout ça en supprimant complètement le minimum. Donc vous pouvez avoir quasiment rien si les juridictions, si les conseillers prud'hommes considèrent qu'il faut accorder peu, et de plafonner, de faire en sorte qu'il y ait un maximum de ce que risque l'employeur. En dessous de 2 ans d'ancienneté, c'est 3 mois maximum. En dessous de 5 ans, entre 2 et 5 ans, c'est 6 mois maximum. Avant, c'était 6 mois minimum, maintenant c'est 6 mois maximum. Et ça monte par gradation jusqu'à, quand on a plus de 20 ans d'ancienneté, 15 mois. Sache, dans la mesure où c'est un maximum, il faut voir que les conseillers prud'hommes, il y a à chaque fois 2 conseillers employeurs, 2 conseillers salariés. Ce qui fait que souvent, on a le minimum parce que les employeurs disent « Ok, d'accord, on accepte la condamnation, mais on veut que le montant soit le minimum. » Si on supprime le minimum, on fait descendre tous les dommages et intérêts. Et on fait surtout que la question de la somme, la question du licenciement rentre dans un calcul économique. C'est-à-dire que l'employeur peut se dire « Ce salarié, je veux m'en débarrasser, donc je vais faire un calcul économique. Au pire, je paierai une certaine somme. » Je vois les probabilités. Actuellement, il y a à peu près 16% de licenciements qui sont contestés. Donc, en moyenne, mon espérance, mon risque, c'est tant. C'est ça le risque. C'est que maintenant, on puisse licencier en disant « j'assume de faire quelque chose qui est illégal et au pire, je prends le risque économique de faire quelque chose d'illégal. »
Alors justement, le fait que ce projet, il arrive à peu près en même temps que les négociations sur la nouvelle convention de l'UNEDIC, qui va elle aussi, d'une certaine manière, réduire les droits des salariés. Est-ce que c'est pour vous un simple hasard de calendrier ou faut-il y voir quelque chose d'un petit peu plus pervers ?
J'ai tendance à y voir, avec peut-être un peu de naïveté, un hasard de calendrier, parce que si ces négociations arrivent là, c'est aussi la conséquence d'une décision, d'une très belle décision qui a été obtenue par un certain nombre d'associations, par un collectif d'associations et notamment par le SAF, qui est intervenant, qui a fait annuler la convention d'assurance chômage avec effet différé au 1er mars. Donc les partenaires sociaux étaient obligés de renégocier. Donc ça a un peu hâté le calendrier des négociations qui en principe devait arriver de mémoire d'ici juillet, ils devaient se mettre d'accord. Donc ça a un peu accéléré le processus. Mais moi j'ai envie de dire, le fait que les négociations sur la convention d'assurance chômage arrivent à ce moment, ça permet de mettre en avant en réalité la politique du gouvernement. C'est-à-dire que systématiquement, dans les réformes qui sont faites, le cache-sexe, c'est la question de la flexi-sécurité. Ça, c'est un mot qui revient sans arrêt. Sans arrêt, on précarise les salariés, mais on dit derrière, en fait, c'est pour de la flexi-sécurité. Sauf que, en fait, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'en même temps qu'on est en train de régresser avec une régression sans précédent sur le droit des salariés, en même temps, le gouvernement est en train d'expliquer il faut faire des économies sur l'assurance chômage et il faut faire une dégressivité des droits. C'est exactement le contraire de ce qu'est, sur le principe, la flexi-sécurité. Donc ça, j'ai envie de dire, ça tombe à point nommé pour démontrer, en réalité, l'imposture qu'on est en train de nous vendre.
C'est effectivement très intéressant. Et il faut rappeler ici à nos auditeurs que, en fait, l'UNEDIC est excédentaire en ce qui concerne strictement la couverture du risque chômage. Alors, ça pose immédiatement le problème. Qu'est-ce qui est sur la table à part la dégressivité des allocations ? C'est déjà un point extrêmement important, mais on peut penser qu'il y a d'autres choses sur la table. Et pourquoi réduire des allocations auxquelles n'ont déjà pas droit plus de la moitié des salariés ?
La question, c'est, quand on dit qu'est-ce qui est sur la table, qui met quoi sur la table et qu'est-ce qui fait l'objet d'une discussion et qu'est-ce qui est fermé ? Déjà, de base, pour comprendre la façon dont se passent les négociations de l'assurance chômage, c'est qu'on réunit les partenaires sociaux qui doivent se mettre d'accord. Et à défaut d'accord, c'est le gouvernement qui prend la main. Ce qui fait que c'est au regard de tout ça qu'il faut regarder les déclarations du gouvernement. Le gouvernement dit, attention, il faut faire de la dégressivité, attention, il faut faire des économies sur l'assurance chômage. Mais quand il dit ça, en réalité, il s'adresse aux partenaires sociaux. Il dit aux syndicats, il dit à la CFDT, il dit à la CGT, il dit à Force Ouvrière, et ainsi de suite. Attention, mettez-vous d'accord, parce que si vous vous mettez pas d'accord, c'est ça que je ferai. Donc en fait, il les force à accepter ça en se disant, attention, on va avoir tellement pire si c'est le gouvernement qui prend la décision tout seul. Alors sur la table, il y a effectivement la question de la dégressivité des prestations. C'est quelque chose qui s'est déjà fait dans les années...
En 92, et on savait que ça n'avait pas marché.
Et on sait que ça n'a pas marché. Donc en fait, la seule question à travers la dégressivité, c'est une question d'économie sur les chômeurs. On veut économiser sur ce qu'on verse aux chômeurs, ce qui est catastrophique quand on voit le taux de chômage à l'heure actuelle, et quand on voit autant de chômeurs n'ont pas d'allocation, donc là, une vraie imposture. Et derrière, en fait, les vraies solutions, on les récuse par principe. Quand les syndicats demandent une augmentation des cotisations pour renflouer les caisses et faire en sorte qu'on puisse avoir des améliorations, parce que à un moment, il faut aussi voir qu'on dit sans arrêt, c'est génial l'assurance chômage en France, mais l'assurance chômage en France, quand on compare le pourcentage du PIB par demandeur d'emploi, on est dans la moyenne européenne, hein, pas plus. Il y avait un dossier d'alternative économique sur cette question. Et en termes d'indemnisation, on n'a que 57% du salaire. Donc vous êtes licencié, et si c'est pour faute grave, quasiment du jour au lendemain, vous vous retrouvez à être privé de 43% de votre salaire. Il y a peu de gens qui ont 43% de leur salaire dont ils ne se servent pas et immédiatement payer un loyer, ils s'en sortent pas. Il y a des pistes d'amélioration, mais le problème c'est que la discussion est fermée. Mais ça, les syndicats le mettent sur la table, mais le patronat refuse d'en parler. C'est tout le problème.
Tout à fait. Et ce d'autant plus que nous avons en France, en termes de demandeurs d'emploi, si vous voulez, dans les fameuses trois catégories A, B et D, qui sont les catégories qu'il faut en réalité prendre en compte, près de 4,5 millions de chômeurs, en tout cas de demandeurs d'emploi. Il y a probablement plus de chômeurs puisqu'il y a très certainement des chômeurs qui ne sont pas des demandeurs d'emploi ou qui sont sortis du système. Alors, ceci me fait poser une autre question. Pourquoi est-ce que le gouvernement cherche-t-il aujourd'hui à communiquer sur le compte personnel d'activité? Quel est le message qu'il y a en dessous?
La question des comptes personnels, des comptes individualisés, c'est quelque chose qui a un certain temps. Il y avait notamment un rapport Supio qui avait été rendu à la Commission européenne, dont la Commission européenne ne savait pas trop quoi faire parce que c'était pas du tout la commande qu'ils avaient fait, qui était l'idée de finalement faire en sorte qu'il y ait des droits qui soient attachés à la personne et pas seulement à la fonction de salarié dans une entreprise. De faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui nous suive sur tout le parcours et qu'on puisse valoriser à travers ça un engagement associatif à un moment, qu'on puisse construire une carrière comme ça en ayant éventuellement des années d'inactivité, des années d'association payée. Enfin, voilà, quelque chose de très intéressant sur le principe. Et cette idée, elle est restée un peu dans l'air. Et là, on a un certain nombre de projets de régression du droit du travail. Et ces comptes refont surface pour, d'une certaine façon, maquiller ce qui est l'essentiel. Parce que, en fait, le compte personnel d'activité à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. On reprend l'IF, on reprend quelques éléments, le droit individuel, la formation, on reprend quelques éléments comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a quasiment rien. Quasiment tout est en négociation. Donc, on a des avancées faciales qui sont facialement des beaux projets, mais dans lesquels il n'y a pas de réalité. Enfin, il faut discuter, il faut construire, mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Et par contre, on a des régressions qui sont réelles et qui auront des effets immédiatement sur la situation des salariés.
Alors, un autre point qui vient immédiatement, c'est que le gouvernement avait déjà fait adopter la loi Macron 1 par le biais du 49.3. Ce fameux article de la Constitution qui permet d'une certaine manière de dire aux députés, ben voilà, ou vous votez la censure, ou on considère que le projet est adopté. Alors moi je vous pose la question, y a-t-il encore un dialogue social quand on utilise ce type d'instrument, et n'y a-t-il pas en fait une trahison du dialogue social qui est tellement encensé dans les discours officiels?
Il y a déjà de façon claire avec le 49.3 une violation du débat parlementaire. Ça, c'est amusant parce que d'un côté, le gouvernement dit « faites la démocratie sociale discuter » et de l'autre côté, quand il s'agit de la démocratie parlementaire, on s'assoit dessus. Et par ailleurs, on voit aussi que quand il s'agit de faire la démocratie sociale et que c'est l'État employeur qui la pratique, notamment quand il s'agissait de réformer en matière du milieu hospitalier, oui. Il y a eu ces discussions et le gouvernement dit moi je réformerai, je suivrai uniquement s'il y a un accord. Et puis finalement, ils sont pas d'accord, il y a une minorité de syndicats qui signent et le gouvernement dit j'en ai rien à faire, je le ferai quand même. Donc il y a une contradiction entre le discours gouvernemental et la pratique réelle. Et puis par ailleurs, je tiens à rappeler qu'il y a l'article L1 du Code du travail, la loi Larcher, qui pose le principe que quand il y a des réformes essentielles en matière de droit du travail, on consulte d'abord les partenaires sociaux avant de légiférer. Sauf que là, on voit encore une fois, que ce soit pour la loi Macron ou que ce soit pour le projet de loi El Khomri, les partenaires sociaux n'ont pas du tout été négociés. Enfin, on voit que certains partenaires sociaux, le patronat a été clairement entendu, mais par contre, les syndicats nous disent tous qu'ils n'ont absolument pas été consultés.
David Van der Vliet, je vous remercie.
Merci aussi à Jacques Sapir.
S'il n'a pas été explicite sur sa volonté de mener une transformation ultralibérale du droit du travail, le candidat François Hollande, aux élections présidentielles, avait néanmoins prôné des réformes du marché du travail d'inspiration allemande. Bruno Amable, économiste, professeur d'économie à l'université Panthéon-Sorbonne et à l'école d'économie de Paris, est avec nous aujourd'hui au téléphone. Bruno Amable, bonjour. Bruno Amable, vous êtes l'auteur de nombreuses publications au sujet de ce que vous appelez le capitalisme rhénan. Pouvez-vous revenir sur les réformes Hart du marché du travail adoptées il y a 10 ans en Allemagne et les comparer au projet de loi El Khomri?
En bref, c'est un peu difficile, mais disons que les réformes Hart ont ciblé une catégorie, enfin certaines catégories de personnes. Ils ont changé, si vous voulez, les règles qui concernaient surtout le chômage de longue durée. Pour certaines personnes, pour un nombre limité de personnes, en fait, la réforme Hart était plus avantageuse que l'ancien système. Pour d'autres, pour la majorité des personnes, c'était un peu moins généreux parce que ça les faisait basculer plus vite dans l'aide sociale au lieu de toucher les indemnités de chômage habituelles. Mais ça concerne des gens qui sont au chômage depuis assez longtemps. Voilà. Et donc, l'esprit des réformes Hart, c'était ça, c'était de dire les chômeurs de longue durée, soit on facilite leur passage vers des jobs qui sont fatalement des jobs mal payés, mal fichus, précaires, temps partiel, etc. Ou alors, ils basculent vers une aide sociale qui est définie aussi par les réformes Hart, et qui est quelque chose qui est calculé voilà, de manière très, pas très généreuse. Il y a une toute petite polémique là-dessus, mais disons que on peut répondre non. On peut dire c'est pas les réformes Hart qui ont fait baisser le chômage au niveau tel qu'on le connaît en Allemagne en ce moment. C'est le fait que la croissance est restée soutenue en Allemagne grâce aux exportations et les firmes n'ont pas beaucoup licencié. Elles ont fait ce qui est pratique assez abondamment, qui est la retenue de leurs travailleurs en faisant plutôt jouer les heures, hein, en laissant travailler moins d'heures plutôt que de se séparer de leur main d'œuvre, dans l'idée que c'est toujours utile d'avoir la main d'œuvre à disposition si jamais les affaires reviennent meilleures.
Bruno Amable, vous conviendrez que le CDI, comme institution du marché du travail français, est durement attaqué par le projet de loi El Khomri. Est-ce que notre CDI français est particulièrement protecteur comparé à d'autres contrats de travail existants en Europe?
Non. À tel point que, d'après les statistiques de l'OCDE, dont on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, la protection de l'emploi en Allemagne est plus élevée qu'en France pour les contrats réguliers, pour les contrats, les CDI. C'est une autre logique. Il y a deux types d'arguments. Il y en a un qui est de moins en moins utilisé, mais qui est relativement populaire, qui est de dire les firmes n'embauchent pas parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir licencier. Cet effet-là, il est empiriquement il a très peu de soutien empirique, si vous voulez. L'autre argument qui est plus à la mode en ce moment, c'est de dire comme le CDI est trop protégé, les firmes embauchent en CDD et donc ça crée des différences. Voilà. Et en fait, c'est la justification en disant les outsiders ont de mauvaises conditions, de mauvais contrats de travail parce que les insiders sont trop protégés. Donc on va protéger moins les insiders et comme ça les firmes donneront des CDI plus facilement. On peut difficilement le lier au chômage lui-même parce que à la limite en Allemagne ce serait plus facile d'avoir recours à des CDD qu'en France. Dans beaucoup de pays, par exemple, la France, toujours si on regarde les mêmes statistiques de l'OCDE, la France se distingue par le fait que les CDD sont assez bien protégés. Donc, vous voyez, c'est pas comme s'il y avait des CDD pas du tout protégés et des CDI trop protégés. En France, le CDD est relativement bien protégé, donc on ne comprend pas pourquoi les firmes aimeraient tellement les CDD par rapport aux CDI.
Chères auditrices, chers auditeurs, nous mettons fin à la première partie de cette édition intitulée « Vers un démantèlement du droit du travail ». Où nous sommes revenus sur les principales dispositions du projet El Khomri. Ce projet, contre lequel différents acteurs sont engagés dans une lutte qui pourrait déboucher sur une grève générale, à supposer que les syndicats sentent un soutien suffisant et se décident à passer à la vitesse supérieure. En attendant, il conviendra donc de continuer à suivre l'évolution du projet, qui n'en est pas encore même au stade de la discussion parlementaire, et ce, alors qu'un an seulement nous sépare de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2017. En tout état de cause, le fait pour François Hollande d'avoir outrepassé, avec ce texte, mais avec aussi bien d'autres, ses promesses électorales de 2012 risquent de lui être profondément rédhibitoires pour le prochain scrutin. À jeudi, chers auditeurs et auditrices, pour une deuxième partie sur la question « Qu'est-ce que la démocratie sociale ?» Je remercie chaleureusement Mourad Azri, au montage et à l'habillage, Marc-Laurent Turpin, à la réalisation, et Clément Détry, à la rédaction. À très bientôt sur Spoutnik France.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.